France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore, tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, scénariste, biographe, entre autres, a choisi d'évoquer un livre dont l'auteur est souvent cité comme l'exemple par excellence de la complication, de l'incompréhension, voire du jargonnage philosophique. Et pourtant, c'est précisément sur ce point, dès ce livre à la fin des années 60, qu'il n'a eu de cesse de travailler le langage philosophique, ce que cachent ses concepts et ses outils tout faits. Ce livre, c'est L'écriture et la différence, et son auteur, Jacques Derrida.
Si vous pourriez voir un documentaire sur un philosophe, Heidegger ou Kant ou Hegel, qu'est-ce que vous désirez voir dedans?
Leur vie sexuelle. Qu'ils parlent de leur vie sexuelle. Parce que je crois que c'est ce dont ils ne parlent pas. Alors j'ai envie qu'ils parlent de ce dont ils ne parlent pas. Voilà. Pourquoi ces philosophes se sont-ils présentés comme asexués? Pourquoi est-ce qu'ils ont gommé dans leur œuvre leur vie personnelle et pourquoi ils n'ont jamais fait état de leur vie privée? Quand je dis sexuelle, ça veut dire privée, évidemment, la vie privée. Il n'y a rien de plus important dans la vie privée que l'amour, hein, ou que les rapports sexuels. J'ai pas dit que je veux pas qu'on fasse un film porno sur Hegel et Heidegger. Je veux qu'il parle de ce qu'a été la part de l'amour dans leur vie. Vous arrivez avec un micro, vous dites alors Hegel. Ce qui veut pas dire que moi je parlerai si on me pose une question. Hein. Moi je parle quand je veux, comme je peux. Éventuellement en présence de mon avocat.
Bonjour Benoît Peters.
Bonjour Géraldine.
Je suis ravie de vous accueillir dans le souffle de la pensée. Vous êtes écrivain, scénariste, biographe. Vous avez occupé la chaire de création artistique au Collège de France. Vous êtes spécialiste de BD et aussi l'auteur de Derrida, une biographie consacrée au philosophe parue en 2010 aux éditions Flammarion. Cet extrait de 2002 d'un documentaire qui est consacré à Derrida, un documentaire de Kirby Dick et Amy Ziering-Kaufman, est incroyable. Est-ce que vous, biographe de Derrida, Benoît Peters, vous êtes capable de nous parler de la vie sexuelle de Derrida? Parce que c'est ça qu'il veut. Hein. On parle de la vie sexuelle, un peu par provocation, de l'amour, de la vie privée.
Oui, c'est une citation extraordinaire qui était comme une autorisation pour moi. Quand j'ai écrit la biographie à laquelle j'ai consacré 3 ans de ma vie, plongeant dans les archives, rencontrant une centaine de témoins, cette phrase résonnait particulièrement, notamment parce que très souvent, quand on fait la biographie d'un philosophe ou d'un grand penseur, on dit « biographie intellectuelle ». Mes interlocuteurs au téléphone disaient « naturellement, vous faites une biographie intellectuelle ». Or, Derrida, et c'est un point clé, considère que la séparation qu'il y aurait entre vie privée, vie publique, vie pensante, et vie tout court...
L'homme et l'artiste, l'homme et l'œuvre.
Que ce sont de vieilles définitions pré-psychanalytiques à bien des égards. Et il disait notamment, si on ne voulait faire que la vie intellectuelle, que ferait-on de l'enfance? Et on refoulerait l'enfance, et puis on refoulerait effectivement mais le rapport à l'amour, le rapport à la sexualité, le rapport à l'argent. Alors, comme j'ai écrit ma biographie dans l'immédiate après-coup, Derrida était mort en 2004 et mon livre est paru en 2010, je restais sur certains points discret, parce que je pense que la vie amoureuse de Derrida a été
un contemporain,
assez riche, et que je ne cherchais pas non plus à multiplier les scoops. Mais cette dimension, oui, elle est très présente dans le livre, et je dirais non seulement la dimension amoureuse, mais la dimension affective. Mmh. Cette dimension affective, le rapport non seulement à l'amour, mais à l'amitié, qui ont été tellement centraux dans la vie de Derrida, y compris d'ailleurs les brouilles, les inimitiés, la fin des amitiés. Et c'est une chose qu'on n'attache pas généralement à son nom. On a une image, et l'écriture à la différence, que j'ai relue ces jours-ci.
Oui, vous en reparlerez de cette nouvelle lecture que
oui,
vous avez.
Oui, l'écriture à la différence est un livre qui peut sembler, par certains côtés, froid et difficile. Mais plus on va avancer dans l'œuvre et la vie de Derrida, plus il s'autorisera à être pleinement lui-même et à retrouver le petit Jackie algérien de son enfance et à laisser parler toutes les dimensions de son être à l'intérieur de sa pensée. C'est un des philosophes aussi, il faut bien le dire, qui a accordé la plus grande place à l'autobiographie à l'intérieur de l'écriture philosophique, avec Kierkegaard et Nietzsche et quelques autres. C'est vraiment quelqu'un qui va de plus en plus s'autoriser le jeu, et un jeu de pensée, mais aussi un jeu d'individualité.
Alors, c'est pas le cas dans L'écriture et la différence. L'écriture et la différence, c'est paru en 1967, en même temps que De la grammatologie et La voix et le phénomène. C'est des ouvrages assez difficiles, ça fait vraiment partie des premiers ouvrages. Donc, on est loin du Derrida que vous décrivez, mais très proche de tous les clichés qu'on a en tête sur Derrida, jargonnant, figure de proue aussi quand même de la French Theory, mais quelque chose voilà qui est inaccessible. On n'est pas du tout dans cette image que vous décrivez de la vie sexuelle, de l'amour, de quelqu'un d'affectif. Par exemple, la semaine dernière, je recevais Amandine Gay qui disait que pour elle, l'exemple paradigmatique de la philosophie qui ne veut pas être comprise et qui donc exclut certaines personnes, c'est Derrida.
Et pourtant, je vais m'inscrire en faux, y compris pour les trois livres de 1967, donc les trois premiers grands livres de ce philosophe né en 1930, qui publie pour la première fois en début 63 et qui va à partir de là devenir extrêmement actif. J'ai été ébloui par L'écriture et la différence, j'ai été ébloui par De la grammatologie, peut-être je suis resté un peu plus à l'extérieur parce que ne connaissant pas assez bien Husserl pour La voix et le phénomène,
oui,
le troisième livre
Husserl,
de cette année-là. Pour le jeune homme que j'étais...
Donc vous l'avez découvert à quelle époque à peu près?
Eh bien écoutez, je l'ai découvert juste après la terminale, j'étais en Hippocagne, puis en Cagne.
On était quoi, au milieu, début des années 70?
Au milieu des années 70, et... Donc ces livres sont tout récents et d'autres livres de Derrida qui sont parus faisaient partie de ce qu'on appelait la modernité. Je l'associais à Foucault, je l'associais à Deleuze, à Lacan, au Nouveau Roman, à Godard. Il y avait toute une nébuleuse de choses qui étaient difficiles mais qui pour moi ont emporté mon adhésion. Et très tôt j'ai senti dans le ton de Derrida... Même si, bien sûr, beaucoup de choses m'échappaient parce que ce sont des livres extrêmement cultivés philosophiquement, où les références sont nombreuses, ce qui peut faire écran. Mais je sentais, par-delà la technicité de certains passages, un souffle, oui, le souffle de la pensée, le souffle d'une écriture aussi, qui me parlait. Et pourquoi? Parce que, tout jeune homme, j'étais dans une sorte de battement entre la littérature et la philosophie. Au fond, la littérature était mon jardin secret et je choisissais la philosophie comme un savoir externe, plus technique, qui m'apporterait davantage et protégerait, au fond, l'écriture littéraire. Or, je trouvais chez Derrida deux choses extraordinaires que j'y trouve toujours. C'est une manière de lire la philosophie comme un texte, de la lire vraiment mot à mot, phrase à phrase, dans ses anecdotes et ses métaphores et ses jeux de mots, et ensuite, dans un second temps, une manière neuve de l'écrire. Et ces deux choses-là, par-delà tout ce qui m'échappait, tout ce que je ne pouvais pas comprendre, ont créé un effet de fascination qui ne s'est jamais arrêté, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de rapport critique. Il y a des livres qui me parlent moins, il y a des textes qui ne m'intéressent pas. Mais ça, cette séduction-là, évidemment, elle a été doublée très tôt par le fait que, étudiant à rue Saint-Jacques, à Louis-le-Grand, puis à la Sorbonne, j'étais à deux pas de la rue d'Ulm et je me glissais avec un ami au séminaire de Derrida de la rue d'Ulm. Bon, je n'étais pas un étudiant très sérieux, donc j'ai écrit mon premier roman pendant que j'étais en quinque. Ce n'était pas la bonne façon de réussir le concours. Je lisais passionnément des œuvres comme celle de Derrida, qui n'était pas non plus la bonne porte d'entrée pour le concours. Mais je suis allé en auditeur libre écouter Derrida. Et je dirais que ce que transmettait Derrida, mais on pourrait dire la même chose de Deleuze pour ceux qui ont été les familiers de ses cours, ou de Lacan, que j'allais parfois aussi écouter malgré la difficulté qu'il y avait à entrer dans cette salle bondée un peu mondaine, cette voix de Derrida qui résonnait, cette manière de dire les textes, cette flamme qui passait à travers des commentaires d'allure parfois austère, je me souviens de commentaires d'un texte d'Althusser sur Engels, bon, etc. Mais il y avait le feu sacré qui était là et qui me faisait vibrer.
Donc vous faites quand même partie, Benoît Peters, des invités qu'on a reçus, qui ont rencontré la personne qui a changé, dont le texte a changé leur vie. C'est-à-dire que vous l'avez lu, vous l'avez rencontré, mais en plus vous avez écrit une biographie sur lui, et vous l'avez dit, Benoît Peters, vous avez passé 3 ans en compagnie de Derrida.
En immersion.
En immersion, voilà, ça c'est un terme à la mode en plus. Donc ça veut dire quoi? Vous avez tout lu? Vous avez rencontré qui? Vous avez fait comment? Surtout que, voilà, vous êtes étudiant, vous le rencontrez, il y a une forme de, voilà, de déférence, de respect qui peut être un petit peu... bon, quand vous avez écrit cette biographie, vous n'étiez plus un étudiant et vous étiez reconnu, vous aviez fait votre vie, votre parcours. Mais il y a quand même quelque chose d'écrasant.
Alors, je dirais que c'est une relation en 3 temps principaux. Le premier, lecture, fascinée et écoute du maître, mais qui reste à une certaine distance. Puis, dans un deuxième temps, une forme de réciprocité qui s'établit, puisque je réalise avec ma compagne de l'époque un récit photographique qui s'appelle « Droit de regard ». La photographe s'appelle Marie-Françoise Plissard. Ce livre va paraître chez Minuit, mais c'est un livre érotique, muet, labyrinthique. Et l'éditeur de Minuit nous dit... Sans un texte, sans une préface, les gens le parcourront mais ne verront pas ce qu'il y a à lire.
Je sais pas si c'est qu'il est réédité, là, justement.
Je dis à ce moment-là, je vois une personne qui pourrait le faire, mais je ne le connaissais pas. Oui. C'est Jacques Derrida et Jérôme Lindon, le patron de Minuit, dit avec un grand sourire, ben revenez avec une préface de Derrida et je publie le livre. Et donc, je me fends d'une lettre peut-être un peu alambiquée, déférente, parce que Derrida s'était un peu, dans un texte, moqué des préfaces, enfin, avait ironisé sur le dispositif des préfaces, je lui dis malgré cela, voilà. Il nous donne un rendez-vous à Marie-Françoise Plissard et à moi, il feuillette lentement, très rigoureusement le livre, et il dit, ah, si j'avais le temps, je le ferais volontiers, etc. Et donc, je dis, prenez-le, il va prendre près d'un an, mais faire bien autre chose qu'une préface, un très, très long texte, une lecture de ce livre, Droit de regard, aujourd'hui réédité. Et c'est le début d'une rencontre, parce que le livre va être traduit, nous voyageons ensemble, et là, je dirais qu'il y a une forme de réciprocité qui s'établit, c'est-à-dire que le disciple fasciné est reconnu par le maître qui, pendant des années, continuera à m'envoyer ses livres.
Donc vous êtes rencontrés
nous nous rencontrons. Je suis encore un jeune homme, on est au milieu des années 80, donc je vais avoir 30 ans. Et donc, on a une relation qui n'est pas du tout hiérarchique. Il y a cette générosité dont tout le monde peut témoigner. Tous ceux qui ont été proches, étudiants, collègues, etc., sauf les ennemis avec lesquels ils pouvaient être durs. Mais quand on était en sympathie avec lui, il y avait vraiment... Bon, c'est lui qui nous remercie de lui avoir permis de faire... Et puis, le troisième temps, et là, on pourrait dire on sort de la réciprocité pour aller vers la transitivité, c'est-à-dire qu'un jour... Ayant continué à suivre l'œuvre de Derrida, ayant, je dirais, tant terriblement ému au moment de l'annonce de sa maladie, et puis de sa mort, ayant suivi cela jusqu'au moment
de 2004,
je me dis, un jour, 3 ans après, et si j'écrivais sa biographie?
Et pourquoi vous vous êtes dit ça?
Pourquoi je me suis dit ça? Parce qu'il y avait ce lien, d'abord, parce qu'il y avait eu cette proximité, même si, bien sûr, en rencontrant le jeune homme que j'étais, il n'a pas pu imaginer un seul instant qu'un jour, je saurais sur lui des choses que même les plus proches ne savaient pas. Les archives étaient déposées à l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine en Normandie. Les témoins étaient pour la plupart encore vivants. Je me suis lancé là-dedans, même si je savais que je n'avais pas la pleine légitimité. Moi qui étais auparavant le biographe d'Hergé. Et j'ai eu à ce moment-là le sentiment, oui, de cette transitivité, c'est-à-dire du fait que de cette fascination, puis de cette rencontre, on allait faire quelque chose. Et il est certain que d'avoir connu Derrida, même un peu, même latéralement,
mais vous étiez
donner une proximité. Non. Non.
Non, mais vous connaissez, voilà, c'était une...
Moi, j'ai continué à les lire. Lui, on voyait des livres, on s'est rencontrés, à quelques reprises. Mais je n'irai pas. Simplement, suffisamment, pour que, sa femme, Marguerite Derrida, lorsque je suis allé la voir, me dise, puisqu'une biographie est inévitable, même si c'est un peu tôt, autant que ce soit vous, parce que Jacques vous aimait beaucoup.
Et mais ça a dû vous faire tellement plaisir.
Cette autorisation qui évidemment se répercutait après sur les témoins était quelque... Voilà. Et donc, c'est une lecture qui est devenue écriture, de ma part. C'est une admiration qui est devenue enquête et transmission. Et c'est aussi cela que j'ai essayé de faire passer à travers ce livre, c'est-à-dire ce Derrida qui ne se réduisait pas à l'image sévère et parfois nihiliste que certains ont de lui.
Et j'argumente aussi.
Oui.
Avec des disciples qui comme lui. Et en fait, on les comprend encore moins.
Ce que j'ai absolument voulu éviter. Oui, ça c'est certain.
Non, mais il faut le dire. C'est vrai qu'il est une figure qui est aussi charismatique.
Il a suscité du mimétisme comme Deleuze ou Lacan en ont suscité. Chez Lacan, c'est caricatural.
Chez Lacan, oui, voilà.
Mais il y a vraiment autre chose. Il y a une pensée, il y a une éthique, il y a une politique, il y a une fascination pour le religieux, autant de choses qui me semblaient absolument nécessaires à transmettre. Et la déconstruction, pour prendre le mot qu'on attache plus souvent à Derrida, la déconstruction est tout sauf ce qu'on en fait dans les médias aujourd'hui. On a l'impression que la déconstruction, c'est l'anéantissement de l'Occident,
c'est
la perte de toutes les valeurs. Oui. On confond déconstruction et destruction, ce qui était quelque chose contre quoi Derrida n'a cessé de lutter. La déconstruction, qu'est-ce que c'est? C'est l'apprentissage de la complexité, c'est l'apprentissage de l'autre au sein de l'un. C'est cela, la déconstruction. C'est cette lecture rapprochée qui fait qu'on ne résume pas un texte philosophique ou autre à ses grandes idées, à ses concepts, mais qu'on le lit dans son tissu, qu'on le lit dans son grain, dans ses moindres mots. Au fond, la déconstruction, Derrida à la fois acceptait et récusait un petit peu ce terme, mais c'est une sorte de psychanalyse de la philosophie. C'est lire l'inconscient philosophique
ça,
dans le texte.
Ça, c'est vraiment, il faut le dire, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont jamais lu du Derrida ou qui ont des réserves ou qui en ont lu et qui n'ont rien compris, il faut accepter en fait de ne pas tout comprendre et accepter en fait de voir qu'il traite la philosophie comme un texte. C'est ce que vous avez dit, c'est ça le grand apport en fait de Derrida. J'ai lu cette semaine L'écriture et la différence grâce à vous, Benoît Peters. Parfois je me suis dit à cause de vous, parce que tout n'est pas facile. C'est un recueil de 11 articles et c'est souvent des commentaires de Artaud, de Bataille, de Husserl, de Foucault, donc il faut connaître. Mais à partir du moment où on accepte aussi de se laisser porter par la langue, je sais que c'est un petit peu bête de le dire comme ça, un petit peu attendu, mais il y a quand même une langue qui nous transporte, on ne comprend pas tout, mais il y a quand même des choses qui nous attrapent quand il dit que le mot est le cadavre de la parole psychique. Je pourrais pas vraiment dire ce que ça dit, mais ça m'a complètement frappée. Avant qu'on écoute un premier texte, Benoît Peters, qui est le tout début de l'écriture de la différence, j'aimerais savoir si vous avez tout compris de Derrida et si vous avez pu peut-être, dans la vraie vie et après dans l'immersion dans sa vie, lui poser des questions, c'est-à-dire des éclaircissements, des élucider, tout comprendre de lui et de sa pensée.
Je n'ai sûrement pas tout compris de lui, même en lisant et relisant plusieurs de ses livres. Je ne conseillerais pas, même si je vais dire pourquoi j'ai cette fascination, je ne conseillerais pas L'écriture et la différence comme porte d'entrée dans l'œuvre, mais plutôt un livre comme L'animal que donc je suis, ou Spectre de Marx, ou Foi et savoir, qui est un petit livre au seuil en collection
Point,
qui est
une
réflexion sur la religion,
qui
est, voilà, des textes plus tardifs, avec des références peut-être moins nombreuses, mais disons une chose d'emblée sur l'écriture et la différence. Dans quel livre de philosophie pouvait-on trouver une telle attention à Michel Foucault comme à Lévi-Strauss, à Antonin Artaud comme à Georges Bataille, à Husserl comme à bien d'autres philosophes majeurs? Comment était-il possible de rassembler des objets pour la plupart non philosophiques et de les traiter avec sérieux? Parce que c'est aussi cela, cette réconciliation entre un rapport à l'écriture qui est fondamentalement aussi un rapport à la littérature et la philosophie. Et par-delà la qualité de lecture qu'on trouve par exemple dans un livre, un texte magnifique qui s'appelle La pharmacie de Platon. Moi, je connaissais un peu de Platon, j'avais un excellent professeur en terminale, terminale littéraire, donc avec beaucoup d'heures, mais c'était quand même le système de Platon, les idées de Platon, les concepts de Platon. Tout d'un coup, dans La pharmacie de Platon, on voit Derrida lire le Phèdre, ce dialogue où il est question de l'écriture, mais le lire comme un dialogue, le lire mot à mot, le lire anecdote par anecdote, s'intéresser aux échanges, presque à la théâtralité qu'il y a chez Platon, et rendre justice à un concept qu'il résume sous le nom de pharmacie, mais qui est celui chez Platon de pharmakon, dont il nous montre les multiples résonances. Le pharmakon qui va désigner l'écriture, c'est aussi le remède et c'est le poison. Socrate, buvant la ciguë, boit le pharmakon. Mm. Et donc Derrida plie et déplie un simple terme en montrant comment la plupart des traductions, modifiant, suivant le contexte, le terme, et donc traduisant par cinq mots différents pharmakon, ruinent cette ambiguïté structurelle dans le texte. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, la philosophie, c'est pour moi. Cette philosophie du mot, cette philosophie de la, cette philosophie de l'ambiguïté, cette philosophie du questionnement sans fin plutôt que de la réponse, voilà les choses.
Ça, c'est frustrant d'ailleurs. C'est frustrant aussi. C'est pas que le côté compliqué en fait de Derrida, c'est que c'est la philosophie de la question.
Ah ben parfois, c'est le contraire de la philosophie analytique.
Alors, mais oui, mais
la philosophie analytique des Anglo-Saxons, c'est celle qui va essayer de cheminer vers des résultats tangibles.
Mais même de la philosophie continentale, c'est-à-dire que parfois, à la lecture de Derrida, de ses textes cette semaine, je me disais pourquoi ? Vous voyez, et c'est la question que j'ai envie de vous poser, Benoît Peter, pourquoi passer des heures à me parler, en fait, de la parole soufflée chez Artaud ? Qu'est-ce que ça peut, en fait, changer ? Alors, vous le dites très bien, Benoît Peter, s'il y a quelque chose du... Vous, ça vous intéressait sur le mot, sur le langage. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui habitait, qu'est-ce qui me Derrida dans cette question du langage. Il y en a qui vont être habités par la question de la mort, par la question de la justice, par la question... Là, le langage, c'est quoi en fait ?
Alors, la question de la mort, la question de la justice, elles sont bel
en
et
plus,
bien présentes chez Derrida,
mais là, dans
comme
ce
la plupart
sur
des
le
grandes
langage.
Questions. Mais prenons un exemple très simple. Dans un livre plus tardif qui s'appelle « Politique de l'amitié », Derrida va longuement s'interroger sur ce que la philosophie a fait de l'amitié, et notamment pourquoi elle a pratiquement toujours pensé l'amitié en termes masculins. Et puis, au détour d'un des chapitres de ce livre, il s'interroge sur un mot essentiel pour nous, un mot essentiel jusque dans la devise de la République française, le mot de fraternité. Et là, il déplie à nouveau ce mot en nous disant pourquoi penser la proximité affective en termes de sang, en termes familiaux. Pourquoi faut-il que le frater soit plus et autre chose que l'ami ? Et puis il introduit, et aujourd'hui ça nous semble évident, mais à l'époque où il l'a fait, vers 1990, ça l'était beaucoup moins, il introduit l'idée de sororité. Pourquoi penser la fraternité uniquement à partir du masculin ? Pourquoi cette devise écrite au fronton de nos mairies exclut-elle d'une certaine façon, sans qu'on le voie, le féminin ? Et là, on voit un des aspects de la pensée de Derrida qui a rencontré le féminisme, même si lui, peut-être par sa vie, ses comportements biographiques, son histoire personnelle, était loin de cela. Mais il y a une alliance très profonde qui est de défaire des termes qui semblent simples et naturels. La fraternité, quand on vous dit, mais oui, alle Menschen werden Brüder, dit Beethoven dans la 9e symphonie, on a l'impression que ce Brüder, ce frère, c'est formidable. Mm. Et puis tout d'un coup, Derrida vient entrer dedans et ébranle ce concept comme il en ébranlera bien d'autres. Comme au fond, tout ce qui fait la présence pleine d'un mot, l'évidence d'un concept, il s'agissait de l'inquiéter. Parce que c'est vrai que c'est une philosophie de l'inquiétude. À partir de ce moment-là, même quand on ne comprend pas tout, se glisse en vous cette manière d'entendre, cette manière de saisir. Je prends un dernier exemple. Une phrase célèbre de Sartre dans sa période la plus dure. Tout anticommuniste est un chien. Eh bien, Derrida, avant de s'intéresser à la question de l'anticommunisme, du totalitarisme, va s'interroger sur ce terme de chien. Et pourquoi faudrait-il que l'ennemi soit animalisé ? Pourquoi animalisé sous forme de chien ? Et là, on va retrouver des questions dans un de ses plus beaux livres, « L'animal que donc je suis », avec une réflexion extrêmement forte sur l'animalité. Ou, petit détour encore, il va s'en prendre à Heidegger, qui a tant compté pour lui. Heidegger qui disait « La pierre est Weltlos, elle est sans monde, et l'animal est Weltarm ». Weltarm, c'est-à-dire pauvre en monde. Et il va dire, mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'animal ? Qu'est-ce que c'est que cette idée que l'humain devrait se construire contre l'animal, penser comme une globalité? Et il va avoir là quelque chose de très beau, qui retrouve exactement ce qu'il y a chez Derrida, mais qui peut agacer. Il va dire, l'animal n'est qu'un animo, M-O-T. Animaux, c'est-à-dire qu'en fait, on subsume toutes les espèces dans leur diversité sous un mot qui n'a de sens que verbal, car l'animal n'existe pas. L'animal, dans sa globalité, n'a pas de sens. Et cette séparation que la philosophie a presque toujours voulu établir entre l'animal et l'humain est purement verbale. Vous voyez donc la démarche, je glisse un peu d'exemple en exemple et de livre en livre, mais c'est pour nous dire que ce n'est pas un jeu verbal vain, ce n'est pas de l'érudition pour l'érudition, c'est quelque chose qui vient à tout moment nous appeler à la vigilance. Et c'est pour ça que la pensée de Derrida sera de plus en plus une pensée éthique et une pensée politique.
Ce qu'on retrouvera donc plus dans des textes tardifs, mais on comprend bien, Benoît Peters, comment, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire Derrida veut inquiéter le langage, veut inquiéter ce qui nous semble en fait acquis, des outils avec lesquels on agit, des outils aussi comme les concepts des philosophes qui nous semblent autoritaires, qui semblent s'imposer d'eux-mêmes.
Et mais après, par exemple, le Weltarm de Heidegger, vous ne pouvez plus jamais l'entendre, Weber. Pourquoi l'animal, ce chat, ce chien, ce cheval serait-il pauvre en monde? Mais êtes-vous entré dans sa conscience pour décider, comme longtemps la philosophie avait décidé que l'animal ne souffrait pas, par exemple? C'est quand même une idée extraordinaire. Derrida, malade, un de ses derniers engagements a été d'être président d'une association contre la tauromachie. C'est vous dire que la philosophie peut aussi conduire à des engagements
tout
très
à fait
concrets.
Pour...
Et par un chemin philosophique, parce que ce n'est pas parce qu'il était austère. C'est une longue réflexion qui le conduit petit
à petit. Et qui part donc du langage dès les années 60. Et avec ce tout début de l'écriture et la différence texte que vous avez choisi, Benoît Peters, où là, Derrida parle d'inquiétude aussi du langage et part du structuralisme.
Si elle se retirait un jour, abandonnant ses œuvres et ses signes sur les plages de notre civilisation, l'invasion structuraliste deviendrait une question pour l'historien des idées, peut-être même un objet. Mais l'historien se tromperait s'il en venait là. Par le geste même où il la considérerait comme un objet, il en oublierait le sens et qu'il s'agit d'abord d'une aventure du regard, d'une conversion dans la manière de questionner devant tout objet. Devant les objets historiques, les siens en particulier. Et parmi eux, très insolite, la chose littéraire. Par voie d'analogie, que dans tous ces domaines, par tous ces chemins et malgré toutes les différences, la réflexion universelle reçoive aujourd'hui un formidable mouvement d'une inquiétude sur le langage, qui ne peut être qu'une inquiétude du langage et dans le langage lui-même, c'est là un étrange concert dont la nature est de ne pouvoir être déployée par toute sa surface en spectacle pour l'historien, si d'aventure celui-ci tentait d'y reconnaître le signe d'une époque, la mode d'une saison ou le symptôme d'une crise. Quelle que soit la pauvreté de notre savoir à cet égard, il est certain que la question sur le signe est d'elle-même plus ou moins autre chose en tout cas qu'un signe du temps. Rêver de l'y réduire, c'est rêver de violence.
Ce sont les toutes premières lignes de l'écriture et la différence de Jacques Derrida, lu par Nicolas Berger. Il s'agit du texte Force et signification, qui est un texte qui avait été écrit en 1963, donc 4 ans avant la parution de ce texte dans ce recueil. L'écriture et la différence, je rappelle que c'est donc un recueil. Et qu'est-ce que dit ce texte, Benoît Peters? Il parle à la fois de l'invasion structuraliste, mais il se met dans la position d'un historien qui, par exemple, aujourd'hui, en 2025, voudrait regarder le structuralisme comme un objet, et il dirait qu'il y aurait là une grave erreur.
Alors, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire dans le texte, c'est sa date. Parce qu'on est en 1963, c'est le premier grand article de Derrida, qui est destiné à la revue Critique, qui prend appui sur un ouvrage de critique littéraire de Jean Rousset, ouvrage qui s'appelle « Forme et signification ». Derrida déjà déplace, dès le titre, la forme devient force, ce qui sera très important.
Avec ce sous-titre « Essai sur les structures littéraires de Corneille à Claudel », donc le grand panorama.
Et Derrida, qui pendant longtemps s'est comme retenu d'écrire, a été empêché par diverses choses. Là, il a 33 ans, il va être vraiment, il va devenir Derrida en quelques mois, en multipliant les publications dans des revues philosophiques ou plus littéraires. Derrida aborde le structuralisme, qui pour la plupart des gens est à peine naissant, à peine émergent, comme quelque chose qui est déjà là. Il y a une perspective
déjà
incroyable, déjà mort, si elle se retirait un jour, abandonnant ses œuvres et ses signes sur les plages de notre civilisation.
Ah, ça, c'est très beau.
C'est magnifique et c'est une attaque très étrange. Il est là, dans un point de vue de surplomb. Et que se passe-t-il, au fond? Et que nous faut-il comprendre? Quel est le sous-texte qui nous importe? C'est que, il y a eu la découverte récente du cours de linguistique générale de Saussure. Et, ce cours prolongé par Jacobson et par d'autres va avoir une influence extraordinaire, notamment sur Lévi-Strauss. Et le paradigme linguistique prévaut. Et autour de ce concept du signe, et notamment de la division établie par Saussure entre le signifiant et le signifié, Derrida sent l'héritage, au fond, d'une très vieille tradition. Le signifiant, c'est-à-dire la force même, qu'elle soit sonore ou scripturale, du mot dans son ambiguïté, et le signifié comme un sens, cette division, cette opposition binaire lui paraît faible. Et à partir de ce moment-là, ce qui se construit là-dessus lui paraît faible. De même qu'un des couples de mots qui organise tout le début de sa pensée, c'est parole-écriture. La valorisation de la parole comme présence pleine, comme présence pure, y compris chez Lacan, c'est très, très important à l'époque, qui est très marqué par le paradigme linguistique et par Lévi-Strauss, la parole pleine et l'écriture qui serait, au fond, une sorte de trace, amoindrie, plus faible. Or, ce qui va construire un des concepts clés de Derrida, la différence avec un A, cette différence qui s'écrit mais ne s'entend pas. C'est l'idée qu'on l'écriture, loin d'être seconde, loin d'être une béquille pour la mémoire, porte déjà l'écart entre soi et soi. Par exemple, le temps de l'écriture n'est pas celui de la lecture.
En fait, Derrida veut réhabiliter l'écriture contre une tradition qui verrait dans la voix, dans la parole, une forme de transparence et de spontanéité. Derrida nous dit, Benoît Peters, à travers tous les textes de l'écriture et la différence, que l'écriture n'est pas qu'une simple inscription qui vient après coup ou une boîte d'enregistrement. Il dit qu'il y a plus, mais alors qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'écriture, pas par rapport à la voix, mais pourquoi en fait il veut à tout prix défendre l'écriture, et peut-être que cette question va vous aider dans la réponse, va avec la réponse, c'est pourquoi ce titre l'écriture et la différence,
oui,
un E.
Ce sont deux concepts qu'il fait jouer en permanence. Alors, il faut dire que la différence est vraiment un des grands concepts des années 60-70. On va avoir la thèse de Deleuze, différence et répétition. Derrida a donc introduit un concept qui est très important pendant plusieurs années avant que déconstruction ne vienne pas. C'est ce concept de différence avec un A. Elle est la différence classique, mais elle est en même temps l'écart entre soi et soi, le différé, parce que c'est cela, qui est un concept neuf, même Heidegger, à qui on explique à cette époque, Derrida dit « Ah oui, ça, oui, c'est intraduisible en allemand », ce qui pour Heidegger est difficile à admettre. Il y a cette idée qu'il va trouver notamment chez Freud, en lisant un texte court et oublié de Freud, c'est un des chapitres de différence de l'écriture indifférente, un texte qui s'appelle La note sur le bloc magique, où Freud va parler du rêve comme texte. Du texte du rêve, du mot à mot du rêve. Au fond, Freud rejoint Derrida et Derrida revitalise en philosophe, il est peut-être le premier philosophe à revitaliser à ce point la lecture de Freud. Freud dit la psychanalyse n'a pas tant affaire au rêve qu'au texte du rêve. et ce texte est un hiéroglyphe. Ce texte doit être décrypté. Toute cette réflexion de Derrida va aussi le conduire à une écriture philosophique différente, c'est-à-dire une écriture, on en sent les traces ici, marquée par la littérature, mais aussi marquée par les ambiguïtés verbales, marquée par la question de la traduction. Il dira un jour, quand on lui demande une définition simple de la déconstruction, il en donnera de multiples, mais il dira « la déconstruction, c'est plus d'une langue ». Et par exemple, il est de ces philosophes qui vont défaire le jeu classique sur l'étymologie en jouant sur les étymologies plurilinguistiques et en essayant de nous montrer à quel point la philosophie s'inscrit dans une langue, la langue française en l'occurrence.
Alors j'ai la citation de Freud que reprend Derrida à de nombreuses reprises dans l'écriture et la différence. Il est dit ceci, « Si l'on réfléchit que les moyens de mise en scène dans le rêve sont principalement des images visuelles et non des mots, il nous paraît plus juste de comparer le rêve à un système d'écriture qu'à une langue. En fait, l'interprétation des rêves est de part en part analogue au déchiffrement d'une écriture figurative de l'Antiquité comme les hiéroglyphes égyptiens. » Je pense que cette citation, elle doit apparaître 4-5 fois. Dans l'écriture et la différence, c'est vraiment quelque chose qui habite Derrida, c'est-à-dire non pas réhabiliter l'écriture comme un logos, comme le structuralisme à travers des formes, mais vraiment réhabiliter l'écriture comme ce qui pourrait transmettre une forme de puissance. Et il emploie ce terme de force. Ce qui est important pour Derrida, c'est
alors
la
là,
force.
Je crois que la différence entre forme et force, qui est présente dans le titre, qui pourrait presque passer inaperçu, elle est absolument essentielle. Au fond, le structuralisme, selon Derrida, ce structuralisme que les gens découvrent, alors que selon Derrida, on peut déjà le considérer comme quelque chose de... Le structuralisme, lui, apparaît comme un formalisme. Et la force, l'énergie, la puissance qui traverse les choses refuse toutes les oppositions binaires, refuse au fond une sorte de mise en case. Alors, on va avoir un rapport très curieux entre Derrida et Lévi-Strauss. Dans De la grammatologie, il va relire des chapitres de Triste Tropique, où il est question de l'apparition de l'écriture chez les Nambiquara et de l'apparition de l'écriture comme perte. Comme début de la violence, qui va lire cela de manière assez sévère. Mais par contre, dans le dernier texte, l'avant-dernier texte de ce volume, La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines, qui est la première grande intervention de Derrida aux États-Unis et qui va le faire connaître, qui va être le début de sa carrière américaine, il lit certains passages de La pensée sauvage de Lévi-Strauss avec davantage de générosité. Alors, il y a là quelque chose de très étrange, c'est que quand Derrida applique son système de lecture à un texte de Platon ou de Husserl, tout le monde l'accepte. Mais quand il s'agit de ses contemporains, Lévi-Strauss, Foucault ou Lacan, pour prendre trois grands... qui se retrouvent déconstruits vivants, le rapport va être très compliqué.
Oui,
et un des textes magnifiques de ce volume est très très commenté. Mazarine Pinjot y faisait allusion récemment dans votre émission. Cogito, Histoire de la folie, le texte sur l'histoire de la folie de Foucault. Derrida nous dit toute l'ambiguïté qui est la sienne dans la manière d'aborder l'histoire de la folie. Il a été, dit-il, un disciple de Foucault. Foucault a 5 ans de plus que lui. Derrida a suivi ses cours, a été emmené par lui dans les laboratoires de psychiatrie, etc. Et en même temps, celui qui a été le disciple va faire une lecture extrêmement pointue de 3 pages de l'histoire de la folie, dont il dit d'emblée que c'est un livre admirable. Il va faire cette lecture en montrant que peut-être, dans la manière un peu simple de considérer la folie chez Descartes dans les méditations métaphysiques, Foucault passe à côté de quelque chose qui pourrait éclairer l'ensemble de sa... C'est-à-dire à partir d'un détail, à partir de quelque chose qui pourrait sembler mineur. Voilà, c'est souvent cela. C'est à partir des marges, ce sera le titre d'un des livres de Derrida, Marge de la philosophie. À partir de cette marge, il y fait remonter quelque chose qui peut être une critique importante. Et évidemment, Foucault, qui assiste à la conférence donnée en 1963, d'abord avec fascination et admiration, et on remercie dans ses lettres, je le raconte dans ma biographie, on remercie multiplement Derrida, va voir l'utilisation de ce texte comme une espèce de travail de sape, de mine qui vient ronger quelque chose, ce qui n'enlève rien à la grande Odyssée. Et donc, petit à petit, appréciera moins ce texte et finira par écrire une réponse taxant Derrida de petit pédagogue.
Oh.
Donc, une violence. Parce que, à ce moment-là, ce texte de Derrida paraît au Japon, en même temps que l'histoire de la philosophie, et devient dangereux. Et il y aura toutes sortes de tribulations et de complexités. Voilà. Donc on voit que la déconstruction, pour un contemporain, ce n'est pas quelque chose de facile à vivre.
Mais en même temps, on peut admirer chez Derrida cette forme d'émancipation, enfin à l'égard de ses maîtres, ou en tout cas de liberté. On le sent quand même hein, dans ce texte-là qu'on a fait lire. C'est-à-dire que quand il dit réduire la question du signe à un signe des temps, c'est le réduire avec violence, c'est que pour lui, vraiment, on ne doit pas prendre à la légère cette question-là. Donc, tout ce qui se joue autour du signe, que ce soit la psychanalyse, le structuralisme, ou ce qu'il appelle le logocentrisme, avec notamment Descartes qui le reprend, pour lui, ce sont des choses très graves. Le signe, c'est important, c'est la manière dont on se parle, c'est la manière dont on va construire nos représentations. On l'a évoqué juste avant, Benoît Peters, par exemple, sur l'animal. Ça change tout. Et là, Derrida fait preuve quand même, on sent qu'il veut être à la fois, il veut pas être bêtement violent avec ses contemporains, mais effectivement, il les sape parce que ce qui compte, c'est la question du signe.
Oui, c'est une lecture active, c'est une lecture qui entre dans les textes, et c'est vrai qu'on était habitué à le faire par rapport à la tradition, mais Lacan, par exemple, va réagir avec une violence encore beaucoup plus grande que
mais
Foucault.
Même Foucault dit, vous avez dit petit pédagogue, mais il dit aussi une œuvre admirablement discontinue. Moi, j'aimerais pas qu'on me dise ça. C'est comme si on disait merveilleusement nul. Ou Lévinas, à qui il consacre un essai, lui dit, voilà, il y a beaucoup de sympathie qui se joint à tant d'incompatibilité. C'est vraiment passif-agressif.
Alors, le cas de Lévinas est absolument fascinant, parce que dans ce livre, L'écriture à la différence, le plus long essai, qui fait 120 pages, est consacré à Lévinas. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque où Derrida écrit cet article, Lévinas n'est connu que des spécialistes. Totalité infinie est paru chez un petit éditeur hollandais, et donc Derrida fait la présentation la plus ample, la plus généreuse de sa pensée, alors même qu'elle n'est pas du tout connue du grand public, mais sa lecture est en même temps une lecture qui pénètre au plus profond des textes et qui, dans la confrontation avec Husserl et Heidegger, donne parfois raison à Husserl et Heidegger contre Lévinas. Lévinas est flatté et touché par le côté pénétrant de cette lecture, mais blessé par certaines incompréhensions. Et le rapport à Heidegger, sur lequel on pourra revenir, est évidemment au cœur de cette souffrance. Mais peu à peu, c'est Derrida qui va refaire des pas vers Lévinas, revenir sur son propre propos, c'est-à-dire être capable de s'auto-déconstruire, si j'ose dire, et qui publiera à la fin de sa vie, juste après la mort de Lévinas, un texte admirable qui s'appelle « Adieu à Emmanuel Lévinas » et qui rend justice à cette pensée. Donc, il n'y a pas non plus quelque chose de figé, il y a une attention au texte qui peut établir du désaccord, mais un désaccord sur fond d'estime, parce qu'au fond, il ne déconstruit que celles et ceux qui l'estiment profondément. Les textes anodins, ils ne perdraient pas de temps à entrer dans leurs détails.
Et selon vous, Benoît Peters, pourquoi la question du signe est-elle si importante pour Derrida? On a parlé de la question du langage. Pourquoi cette question l'habiter? Est-ce que c'est la même réponse que vous allez apporter? C'est-à-dire, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est ce qui construit la relation à l'autre. C'est ce qui construit notre manière de vivre. C'est pour ça que c'est si important. Est-ce que signe et langage, c'est pareil?
Alors, le premier Derrida est focalisé sur ces questions qui peuvent peut-être nous sembler, et qui, à certains côtés, me semblent aujourd'hui datées. L'invasion structuraliste est loin. Elle n'est plus du tout le paradigme dominant pour nous. Le premier Derrida est extrêmement construit autour de ces questions-là, parce que la question linguistique, la présence saussurienne, lorsque j'étais étudiant encore, c'était partout. Ça innervait absolument tout. On pensait la sociologie, la psychanalyse, la littérature à partir de ces termes. Repensons à Barthes, par exemple.
Et que là, vous avez bien connu, je le précise, qui était votre directeur
aussi,
de thèse.
Mais qui chez Barthes, l'héritage de Saussure, de Jacobson, de Yemsleff est là, très très présent. On va avoir Système de la mode, par exemple, qui n'est certainement pas aujourd'hui un des livres les plus présents de Barthes pour nous, mais qui tente d'aller dans cet horizon de scientificité. Or, ça, ce désir de faire science, ce désir de stabiliser le savoir que le paradigme linguistique peut donner, ce n'est pas du tout quelque chose qui intéresse Derrida. Au fond, d'où vient sa fascination pour la littérature? Dans l'ambiguïté profonde et essentielle du texte littéraire et du poème, par exemple, du poème de Celan, mais de bien d'autres textes, d'Artaud aussi. On ne peut pas réduire un texte littéraire à, comment dire, une intention de sens qui se dévoilerait peu à peu dans l'ancienne herméneutique. Comprendre un poème, l'expliquer. Chez Derrida, il s'agit de le garder aussi dans son mystère et son opacité essentielle. Ne pas tout comprendre. Et à partir de ce moment-là, l'écriture philosophique va pouvoir évoluer, et ça c'est ce qu'on verra dans des livres essentiels de la seconde période, comme Glas et la carte postale. Glas, qui est un livre où Hegel et Jean Genet sont confrontés sur deux colonnes pleines d'échos, etc. L'écriture philosophique se réinvente dans un objet qui tient du poème, qui tient du récit, qui tient au fond de l'effort de penser. Et ça, je pense que votre émission le dit bien avec son titre, Le souffle de la pensée.
Alors, c'est vrai
il y a quelque chose qui n'est pas que philosophique, qui est, et on pourrait dire que Paul Valéry est par exemple un exemple typique de ce qu'est un penseur qui n'est pas un philosophe. Ça, c'est quelque chose qui va traverser aussi, je crois, l'œuvre de Derrida. Bien sûr, par son histoire, sa culture, sa lecture des textes, il est philosophe, mais je dirais que de plus en plus, il va être penseur et sortir de la technicité de cette première période
cette
dans laquelle on l'enferme parfois.
Pensée et vie, par exemple. Là, il y a vraiment une incarnation. Benoît Peter, je vous propose, parce que l'émission file vite, qu'on écoute un deuxième texte qui n'est pas extrait de l'écriture et la différence, mais qu'il vous semblait important qu'on entende. C'est un extrait de Apprendre à vivre enfin, extrait d'entretien avec Jean Birnbaum entre Derrida et lui. Ils ont été faits quelques semaines avant sa mort et ses entretiens ont été publiés en 2005, donc quelques mois après sa mort.
Dès le début, et bien avant les expériences de la survivance, qui sont à présent les miennes, j'ai marqué que la survie est un concept original, qui constitue la structure même de ce que nous appelons l'existence. Nous sommes structurellement des survivants, marqués par cette structure de la trace, du testament. Mais ayant dit cela, je ne voudrais pas laisser libre cours à l'interprétation selon laquelle la survivance est plutôt du côté de la mort, du passé, que de la vie et de l'avenir. Non. Tout le temps, la déconstruction est du côté du oui, de l'affirmation de la vie. Tout ce que je dis de la survie comme complication de l'opposition vie-mort procède chez moi d'une affirmation inconditionnelle de la vie. La survivance, c'est la vie au-delà de la vie plus que la vie. Et le discours que je tiens n'est pas mortifère, au contraire, c'est l'affirmation d'un vivant qui préfère le vivre, et donc le survivre, à la mort. Car la survie, ce n'est pas seulement ce qui reste, c'est la vie la plus intense possible. Je ne suis jamais autant hanté par la nécessité de mourir que dans les moments de bonheur et de jouissance. Jouir et pleurer la mort qui guette, pour moi, c'est la même chose. Quand je me rappelle ma vie, j'ai tendance à penser que j'ai eu cette chance d'aimer même les moments malheureux de ma vie et de les bénir, presque tous, à une exception près. Quand je me rappelle les moments heureux, je les bénis aussi, bien sûr. En même temps, ils me précipitent vers la pensée de la mort, vers la mort, parce que c'est passé, fini.
Texte magnifique, Benoît Peters, dans lequel on entend Derrida loin, en fait, quand même, hein, de sa voix, de son écriture des années 60. Là, il se penche sur sa vie, mais il reste ce terme de déconstruction. C'est comme si, après toutes ces années à travailler sur l'écriture, la différence, la déconstruction, l'animal, et tout à coup, il nous disait « La déconstruction, je veux le dire, c'est du côté de la vie. »
Et c'est du côté du « oui ». alors qu'on croit que c'est du côté de la destruction. C'est un texte très beau dans ce livre « Apprendre à vivre enfin » qui est une des belles portes d'entrée dans l'œuvre. C'est un petit livre mais qui peut toucher beaucoup. Quand on dit le survivant, quand on dit la survie, on entend souvent, fréquemment, presque la sous-vie. C'est-à-dire, le survivant, c'est celui qui a encore un petit bout de vie. C'est celui qui s'apprête
qui à... Qui essaye de surnager, de s'en sortir.
Et ce que nous dit Derrida, c'est que cette structure de la survivance que nous portons en nous, elle est, comme le surréalisme serait un au-delà du réalisme, elle est au-delà de la vie. La vie... comment dire, ayant gagné des couches multiples par le souvenir, la trace, la cendre, tout ce qui nous défait et qui en même temps nous fait exister pleinement. Et il y a là donc cette affirmation positive que j'avais envie de donner à entendre parce que ce qu'on retient parfois de Derrida, c'est cette idée de quelqu'un qui viendrait saper toutes les bases, qui viendrait défaire les illusions ou faire de la philosophie à coups de marteau, comme Nietzsche. Or, il y a cette générosité, cette ouverture, cette idée au fond que déplier les textes, repenser les concepts du droit, de la religion, etc., c'est au fond les ouvrir, les enrichir, accorder, et je ne veux pas faire de Derrida un humaniste classique, accorder une place à l'autre, tout le temps. L'autre dans l'un. Et ça, je crois que c'est vraiment un des héritages les plus fondamentaux. C'est une pensée qui accueille l'altérité.
Au lieu de,
et qui accueille l'hospitalité, qui accueille le secret, qui accueille toutes ces dimensions sur lesquelles il va travailler dans ces dernières années, ces séminaires autour de la peine de mort, autour du témoignage, enfin, de questions qui nous touchent toutes et tous, la pensée du terrorisme, la pensée de l'État voyou, enfin, toutes ces choses qui viennent, au fond, en interrogeant le présent, l'ouvrir à des dimensions neuves. Pour peu que l'on soit capable d'entendre la complexité. Et ça, c'est évidemment quelque chose que notre temps entend mal, ce pourquoi il est parfois difficile de faire entendre la voix et de faire lire les textes de Derrida, parce qu'on a envie de solutions simples, de réponses immédiates à presque tout. Et Derrida refusait. Son rapport aux médias le dit d'ailleurs, il y a une phrase fameuse qui est « si je peux faire plus d'une phrase ». C'est-à-dire « je ne peux pas ». Donner une opinion claire, par exemple, sur la question israélo-palestinienne, je ne peux que la déplier dans son infinie complexité. C'est ce que Derrida n'a jamais cessé de faire. Et on imagine ce que seraient ses analyses sur la situation d'aujourd'hui.
Alors, j'imagine comment cet extrait résonne pour vous, Benoît Peters, qui est le biographe de Derrida, surtout quand il dit « je me rappelle ma vie ». Là, il y a vraiment quelque chose de biographique. Et vous l'avez dit, Derrida tend de plus en plus à assumer le jeu. C'est très important. Moi, j'aimerais juste qu'on revienne avant de finir cet entretien sur cette phrase, nous sommes structurellement des survivants marqués par cette structure de la trace, du testament. Qu'est-ce que la trace chez Derrida et en quoi on est structurellement constitué par cette trace?
Nous ne sommes pas pleinement nous-mêmes. Il y a là, on revient évidemment à cet héritage philosophique de la psychanalyse qui est au cœur de la pensée derridienne. Nous ne sommes pas que conscience, nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes et l'autre l'est encore moins. Voilà, après, déplier ce concept de la trace supposerait des connaissances et des qualités philosophiques qui ne sont pas les miennes. Je suis, je dois le dire, toujours en écho avec Derrida. L'œuvre résonne en moi, évidemment, le connaissant bien à travers toutes les lettres, etc. Je sens cela, mais je ne suis pas l'exégète autorisé de Derrida, et certains ont consacré leur vie à lire patiemment certaines des œuvres les plus opaques. Un livre auquel je faisais allusion, Foi et Savoir, il est admirable, je l'ai lu 3 fois, mais je ne suis pas sûr de l'avoir compris.
Mais
chaque fois, ma pensée de la religion en sort enrichi, complexifié, ce qui pourrait être pour moi un athéisme simple, se trouve inquiété. Et ça, voilà, quelque chose que j'adore.
Qui est de l'ordre voilà, du ressenti, comme on dit, et non pas voilà, de la restitution. J'aimerais juste avant qu'on écoute la chanson de fin, dire cette citation de l'écriture et la différence que j'aime beaucoup, j'ai commencé à la citer tout à l'heure, c'est « Le mot est le cadavre de la parole psychique et il faut retrouver avec le langage de la vie elle-même ».
Thank you. banlieue, j'aime pas leur maison, j'aime pas leur ville, j'aime pas leur raison. Construire des ciels sans horizon,
ça m'intéresse pas,
c'est pas mon deuil. J'aime pas les prisons, leur air méprisant, je trouve ça épuisant.
Ouais, ça m'intéresse pas,
je trouve ça épuisant. J'aime pas leur dieu, j'aime pas leur maison, j'aime pas leur ville, j'aime pas leur raison. J'aime pas leur dieu, j'aime pas leur maison, j'aime pas leur ville, j'aime pas leur raison. J'aime pas leur dieu, j'aime pas leur maison, j'aime pas leur ville, j'aime pas leur raison.
Cette chanson, Benoît Peters, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, Derrida, donc on l'a bien compris, et plutôt on va dire tout Derrida, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vous n'aimez pas, qui avez-vous choisi ?
Alors c'est un choix qui peut sembler très paradoxal, puisque c'est un philosophe qui a beaucoup compté pour Derrida, peut-être le plus compté, c'est Heidegger. Et alors, autant je me sens en résonance, en infinité avec le ton et l'écriture de Derrida, autant Heidegger, dès le début, et alors même que tout jeune homme, je ne savais pas tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le passé politique de Heidegger et son engagement nazi, il y a ce qu'un critique avait appelé le jargon de l'authenticité, qui me gêne dans la langue et le ton de Heidegger. Quelque chose de grandiose par certains côtés, de certainement admirable, mais qui me laisse sur le pas de la porte comme quelque chose dans la figure de Heidegger, de sa hutte, de son imagerie, de sage retiré alors qu'il ne l'était pas tant que cela. Au fond, dans ce jargon de l'authenticité, dans cette langue, dans cette manière de commenter la poésie, par exemple celle de Hölderlin,
ça suppose déjà
je
de
me
connaître
sens, je me sens repoussé. Et donc, c'est très étrange parce que ça nous dit qu'il y a, par delà le cas, je ne minimise pas la grandeur philosophique de Derrida, d'autant qu'elle a compté, de Heidegger, d'autant qu'elle a compté pour Derrida, mais il y a quelque chose qui, dans la manière de dire la philosophie et de l'écrire, peut créer chez nous une attirance immédiate ou un rejet immédiat. Il y a des gens pour qui Spinoza résonne tout de suite et Descartes moins, ou l'inverse.
Je précise que vous dites ça en vous tenant le ventre, Benoît Peters. Vraiment, il y a vraiment de l'ordre de quelque chose de l'ordre des tripes, mais c'est intéressant.
Et ça a été confirmé, évidemment, par toutes les révélations successives sur Heidegger, parfois minimisées par Derrida. Toutes ces cachotteries, la manière de réduire l'engagement nazi à die große Dummheit, la grosse bêtise, c'est la seule chose qu'il parvient à en dire, eh bien, c'est comme si tout ce que j'ai pu apprendre après, je l'avais senti dès la lecture des premières pages des Chemins qui ne mènent nulle part, recueil que j'ai lu dès la terminale.
Alors, ce qui est intéressant, je le précise quand même, que vous n'aimez pas Heidegger pour les mêmes raisons que vous aimez Derrida. C'est-à-dire, je ne parle pas de l'antisémitisme là, mais je parle vraiment de cette incompréhension ou de cette manière de buter.
Il faut le dire, pour moi en tout cas, mais pour beaucoup sans doute, la philosophie c'est une voix. Et j'aime cette voix, j'aime cette tonalité de Derrida et je n'aime pas celle de Heidegger.
Merci beaucoup Benoît Peters. De vous, on peut lire la biographie de Derrida, donc intitulée tout simplement Derrida, disponible aux éditions Flammarion. Je cite « Droit de regard » dont vous avez parlé, livre de photos de Marie-Françoise Plissard dont vous avez rédigé le scénario qui vient d'être réédité aux éditions Les Impressions Nouvelles avec à la fin donc une lecture de Derrida. Et je l'annonce, apparaître en janvier, votre dictionnaire amoureux de la bande dessinée aux éditions Plomb. Pour lire L'écriture et la différence de Derrida, c'est disponible aux éditions du Seuil dans la collection Telle Quelle. Un grand merci à Manon Delasselle, Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation et à la lecture des textes, à Mineta Jawara à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.